Le journal de 7h, César Yao.
Bonjour à tous, les titres de ce vendredi 7h. Acteur majeur du processus électoral, les défenseurs des droits de l'homme ont été appelés à être impartiaux hier jeudi à Abidjan lors de la rencontre d'échange initiée par le Conseil national des droits de l'homme. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD a procédé à sa traditionnelle rentrée solennelle hier jeudi. Selon le vice-président de la République qui y était, eh bien la mission de l'ASCAD ne peut prospérer que dans un esprit de fraternité et de solidarité. Dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, deux explosions hier, jeudi à Bukavu, lors d'un meeting de la FCM23. Bilan provisoire, au moins 11 personnes ont été tuées et 71 blessées. La nature des explosions reste pour le moment inconnue. Jean-Mylène Bitti sera des nôtres pour la revue des titres des journaux ivoiriens du jour. Et en fin d'édition, l'invité de la rédaction Doué, Ginette Gladys, enseignant, chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cocody sera l'invité de Paul Bénédicte Bolou au centre des échanges. La transformation de légumineuse locale dans la lutte contre la malnutrition infantile. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. En ouverture de ce journal, l'implication des défenseurs des droits humains dans les processus électoraux. Ceux-ci ont un rôle crucial à jouer dans la sensibilisation des populations tout en restant neutres sur le plan politique. C'est ce qui ressort, n'est-ce pas, de la rencontre d'échange entre le Conseil national des droits de l'homme et les organisations de la société civile tenue hier jeudi au siège du CNDH à Abidjan, Cocody. Compte rendu signé Christelle Yesso.
La vice-présidente du CNDH, Marie-Paul Kodjo, situe le contexte de cette rencontre.
Les périodes électorales sont souvent des moments de tension et de risques accrus pour les droits de l'homme. Dans ces contextes sensibles, les défenseurs des droits de l'homme jouent un rôle essentiel. Ils sont les sentinelles de nos libertés, les voix de ceux qui sont marginalisés.
Pour le président du COSELSI, Drissa Soulama, les défenseurs des droits humains jouent un rôle crucial dans le processus électoral.
Nous-mêmes, nous devons œuvrer de ça. Pour aider les populations à comprendre non seulement la révision de la liste électorale, aussi comprendre le processus de vote. Et au-delà même de la révision de la liste électorale, je pense que nous devons aussi ne pas attendre la commission électorale indépendante pour qu'elle nous donne des fonds. Il faut que nous ayons des stratégies, s'engager effectivement à aider, à sensibiliser dans nos communautés.
Il interpelle les acteurs politiques sur l'observation électorale.
Même les acteurs politiques aujourd'hui qui parlent de révision de la liste électorale, on les voit très peu à l'observation de la révision de la liste électorale. Quand on veut observer effectivement être dans le bureau de vote, pendant un certain temps, cela peut nous permettre effectivement de voir. Est-ce que le mode opératoire de la révision de la liste électorale est suivi?
Pour Marthe Koulibaly, représentante de la coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains, un défenseur ne peut s'afficher comme un partisan politique.
Un défenseur des droits de l'homme, toi tu fais l'observation électorale et durant la période on te voit avec le t-shirt d'un candidat. Ça pose un problème. Tu peux avoir ton parti, avoir ton candidat, mais ça doit rester secret. Mais si tu es dans une organisation de la société civile que tu veux maintenant t'afficher politiquement, tu déposes ta casquette.
Par la suite, des recommandations ont été faites pour leur protection et seront présentés aux autorités compétentes.
L'ordonnance relative à la société civile était au centre de la tribune du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. D'hier jeudi, Kone Katinan Justin, président du Conseil stratégique et politique du PPACI, qui s'insurge contre cette ordonnance, pense qu'elle va contre la liberté d'expression et d'exercice de ces organisations. Le point avec Ismaël Ango.
Pour nous, c'est un code pénal spécial écrit pour la société civile, cette ordonnance.
Le Parti des peuples africains dénonce une ordonnance relative à la société civile. Selon le PPACI, cette ordonnance vise à étouffer toute forme de contestation au gouvernement et à réduire au silence la société civile. Dr Kone Katinan Justin, président du Conseil stratégique et politique du PPACI.
Pour le PPACI, le gouvernement veut se donner les moyens de se choisir la société civile qui lui convient. Si une ONG s'élève pour dire les élections, il y a une fraude là-bas, on va dire c'est pour l'ordre public.
Kone Katinan-Justin a également réaffirmé le soutien sans faille du PPACI aux acteurs de la société civile dans cette lutte.
Le PPACI s'associera pleinement à toutes les actions qu'entreprendront tous les acteurs de la société civile pour protéger légalement leurs droits, y compris les syndicats.
Face à cette situation, le PPACI a demandé à l'Union européenne d'intervenir auprès du gouvernement.
Le PPACI demande à l'Union européenne qui a financé ces travaux d'interpeller le gouvernement. Surtout que aux EPU, ce qu'on appelle les évaluations périodiques universelles de la situation des droits de l'homme dans le monde de l'ONU, la Côte d'Ivoire a été sévèrement critiquée, y compris par l'Union européenne, pour cette ordonnance-là.
Dans les prochains jours, le PPACI annonce qu'il enverra des délégations à travers tout le pays. Leur mission, sensibiliser et mobiliser la population contre cette ordonnance relative à la société civile.
L'actualité, c'est aussi la recrudescence des conflits fonciers constatés ces temps-ci à Abidjan et dans certaines localités de l'intérieur du pays. Ce sujet a donc retenu l'attention des journalistes lors des échanges avec le porte-parole du gouvernement au thème du Conseil des ministres tenus mercredi. Là-dessus, écoutons Amadou Koulibaly qui rassure les Ivoiriens quant à la gestion de ces conflits fonciers conformément à la loi en vigueur.
Des problèmes de conflits fonciers depuis la session du président Ouattara à la tête du pays. Beaucoup d'efforts ont été faits pour assainir le milieu du foncier. Et la dernière réforme de l'ADU, l'attestation de droit d'usage, vient justement pour apporter une réponse à un des problèmes majeurs du foncier, celui de la vente des terrains à de multiples acquéreurs. Quand vous avez mis toute votre économie dans ce projet de vie et qu'au bout, vous vous trouvez dans des imbroglios administratifs ou juridiques, on peut comprendre le drame. Mais pour le moment, c'est vrai, il y a des contentieux. Il faut faire confiance à la justice. Ça peut paraître long, donc il faut que tous les gens aillent vers l'ACD dès qu'ils ont leur ADU. C'est ce qui va les sécuriser. Mais dans un souci de transparence, le ministère a décidé de mener des enquêtes internes. S'il savait que certains de ces agents sont impliqués dans des démarches véreuses, ils en tireront toutes les conséquences. Il y a un véritable souci d'aller vers la bonne gouvernance. Mais quels que soient ces organes qu'on aura mis en place, il faut un changement de mentalité aussi à notre niveau, en ayant un comportement civique. Parce que dans le cadre des conflits fonciers, il y a bien un vendeur. Si lui, il est indélicat, mais ça fausse carrément toute la chaîne.
Voilà, c'était Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (ASCAD) a procédé à sa traditionnelle rentrée solennelle hier jeudi à Abidjan, marquée par une leçon inaugurale sous le thème « ASCAD dans la promotion de la science et de la culture en Afrique ». Cette cérémonie a été présidée par le vice-président de la République, Tiémoko Meliékoné, avec Didier Blé. On en parle.
Une rentrée solennelle qui incarne à la fois une tradition et une dynamique en faveur du développement scientifique et culturel. L'ASCAD se doit d'être une institution au service de la connaissance. Gilbert Marie Akembo, président de l'Académie.
L'ASCAD joue son rôle dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire à travers les missions qui lui sont dévolues, notamment la promotion de la science, la réhabilitation des arts et des cultures en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans les diasporas africaines, le conseil et l'offre d'expertise au pouvoir public.
Cette rentrée solennelle est aussi un moment de réflexion collective. Tiémoko Meliékoné, vice-président de la République.
Votre mission ne peut prospérer que dans un esprit de fraternité et de solidarité pour élever la science et la culture sans jamais perdre de vue le rayonnement de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain.
Et au professeur Pierre Kipré, il est revenu de prononcer la leçon inaugurale, l'ASCAD dans la promotion de la science et de la culture en Afrique.
Il faut avoir à l'esprit d'être toujours au service de la nation, participer activement à l'économie du savoir, être en phase avec les besoins de la société qui sont des besoins nouveaux de progrès par la science et la technologie.
Des activités phares ont été annoncées pour cette année, parmi lesquelles une journée dédiée aux mathématiques et la présentation du dictionnaire ASCAD de Nouchi, l'argot populaire ivoirien.
Direction l'intérieur du pays, notamment à Yamoussoukro, où le ministère des Finances et du Budget organise du 23 février au 2 mars un séminaire bilan du plan d'action opérationnel 2024 et d'élaboration du plan d'action opérationnel 2025. Correspondance Emiliao.
Au terme de la première année de mise en œuvre du plan d'action stratégique PASS 2024-2025, à travers le plan d'action opérationnel 2024, il convient, selon Alagui Martial, directeur par intérim de la planification, du suivi-évaluation, de conduire une évaluation des efforts sur l'année écoulée et tirer les leçons essentielles pour l'avenir.
En vue de mener à bien cet exercice, Monsieur le ministre a bien voulu autoriser la tenue de ce séminaire dont l'aboutissement sera l'adoption du plan d'action opérationnel 2025. Par ailleurs, il a été retenu d'y adjoindre l'élaboration des matrices sectorielles du PIP 2026-2028 et du PND 2026-2030.
Soumaoro Deli, représentant le ministre des Finances et du Budget, à l'ouverture de ce séminaire.
Chers séminaristes, à la lumière des objectifs ainsi affichés, vous pouvez mesurer l'ampleur du travail à réaliser, mais également les principaux enjeux du présent séminaire. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à vous impliquer pleinement dans les travaux afin de faire à la hiérarchie des propositions pertinentes pour permettre de garantir l'efficacité de notre action.
Ce séminaire est donc d'importance pour le PAGEDES, Akrou Bertin, son coordonnateur adjoint.
Tout le monde sait aujourd'hui que le PND est le socle de toute activité dans tous les ministères. Donc, ce séminaire est très important, non seulement pour son sujet lui-même, mais aussi pour le PAGEDES.
Ce séminaire de plus d'une semaine prévoit des travaux en plénière, une mise en cohérence des différents documents, ainsi qu'une séance de restitution des travaux. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, deux explosions retentissent hier jeudi à la place de l'indépendance à Bukavu, alors que Corneille Nanga, coordonnateur de l'AFCM 23, achevait son meeting. Selon des sources de nos confrères de Radio France Internationale, au moins 11 personnes ont été tuées et 71 blessées. C'est un bilan provisoire. De son côté, le président Félix Tshisekedi a condamné l'explosion, la qualifiant d'acte terroriste odieux perpétré par une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais sans nommer directement la FCM 23 ni le Rwanda. En sport, éliminatoire Afro-Basket 2025, les éléphants efficaces sont venus à bout de l'Égypte dimanche dernier à Antananarivo, 76 à 82. Bien sûr, ce parcours s'en fout les explications de Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball.
Le message était clair. Je leur ai dit, on part pour faire du 3 sur 3. Même si nous sommes qualifiés, il faut donner un signal. Et cela s'est vu lors de la première rencontre où nous avons marqué plus de 100 points. On a une équipe qui est stable, qui est en place. On a un encadrement technique qui est stable et qui est en place. On a des joueurs qui ont envie de gagner et il y a une confiance réciproque entre les joueurs d'abord, entre les joueurs et l'encadrement technique et la fédération. Et ce qui fait que ces jeunes-là sont prêts à tout donner. Il y a des axes d'amélioration, bien sûr. Nous avons encore quelques joueurs que nous devons incorporer. Il y a quelques difficultés de qualification de certains joueurs. Naturellement, on a besoin d'un ou deux joueurs encore à l'intérieur pour un peu plus densifier en taille et en masse notre secteur intérieur. On a besoin d'un meneur pour quelque peu suppléer à Solo et à Sémian à des moments donnés. Mais on a de la marge, on a des garçons comme Pacom Dadier qui sont prêts à rejoindre l'équipe nationale. Mais on a quelques difficultés de qualification encore en tant que joueur non sans restriction de Moubamba et de Kevin Yebo. Mais avec ces éléments, je pense que je peux, sans risque de me tromper, penser qu'on a l'équipe pour pouvoir aller jusqu'au bout de la compétition.
Voilà, c'était Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball. Sans transition, à présent, la revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Jean-Mélène Bitti. Bonjour Jean-Mélène.
Bonjour César, bonjour à tous. Ouvrons notre revue des titres avec un point sur la politique et la position du PPACI concernant l'ordonnance sur la société civile. Selon le Nouveau Réveil, le PPACI appelle ses députés à s'abstenir de voter. De son côté, Soir Info révèle que Kone Katina annonce d'importantes actions à venir, qualifiant la loi d'attentatoire aux libertés publiques et exigeant son retrait. Le Temps à son niveau titre que le PPACI dénonce un régime qui cherche à contrôler la société civile. Au PDCI, l'ambiance est à la célébration avec le retrait de l'assignation en justice contre Tidjane Thiam. L'héritage précise que cette assignation n'a pas été enregistrée, tandis que le nouveau réveil barre à sa une que le dossier a été classé sans suite. Dernière Heure Monde ajoute que le procès contre Thiam n'est plus à l'ordre du jour. Passons maintenant au programme de logement du gouvernement avec la remise de clés à Bengerville. Le Matin annonce en une logements sociaux, Ouattara soulage encore les économiquement faibles, alors que l'Avenir signale que l'opération atteint sa vitesse de croisière. En page de couverture, le Patriote met en avant l'effort de l'État pour réduire les coûts des logements de 30 à 50% pour les souscripteurs. Autre sujet au menu de cette revue, la modernisation de l'administration avec le lancement du projet Pacte dans les villes de l'intérieur. Le sursaut nous apprend que Anne-Désirée Ouloto est à l'initiative de ce projet dont le coût est estimé à plus de 629 millions. Selon Le Matin, l'intelligent d'Abidjan souligne que les populations seront au cœur de cette initiative. Dans le domaine de l'énergie renouvelable, le gouvernement lance un projet ambitieux. Sangafo a posé la première pierre d'une centrale photovoltaïque à Bondoukou. Un investissement de 40 milliards de francs CFA rapporte le sursaut, l'Inter et le Jour Plus. Sur le plan de l'immatriculation de l'armée, Tene Biraïma s'attaque à la sécurisation des véhicules militaires. Le Matin évoque les efforts de l'armée contre les faussaires. Et le Jour Plus écrit que le ministre de la Défense déclare la guerre à l'utilisation de fausses plaques d'immatriculation militaire. Le Patriote conclut que l'armée se modernise. Pour terminer, évoquons le soutien de l'ASDM à la presse imprimée. L'Essor annonce une aide publique aux médias. C'est réjouissant que Meïté Sindou soulage la presse. L'Avenir lui conclut en révélant le plan du gouvernement pour sauver la presse. Voilà l'essentiel de l'actualité vue par vos journaux. Merci et bonne lecture.
Voilà la revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Jean-Mélène Bitty qui sera des nôtres à 8h. Dernier mouvement de ce journal, l'invité de la rédaction et l'invité de Paul-Bénédicte Bolou est Doué Ginette Gladys, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody, pour parler de la transformation de légumineuses locales dans la lutte contre la malnutrition infantile. Entretien donc.
Docteur Doué, bonjour. Vous avez bénéficié d'un soutien du Fonci pour la réalisation de votre projet. Pouvez-vous décrire brièvement votre projet de transformation des légumineuses locales?
Les légumineuses, si vous voulez proposer un aliment, il faut au niveau de la chaîne de valeur. Donc nous sommes intéressés aux productrices, cultivatrices. Donc nous avons intégré dans le projet. C'est elles qui s'adonnent à cette activité. Comment ne pas valoriser ça en sorte de leur montrer des débouchés? C'est-à-dire que cela va permettre un peu de donner un intérêt à la pratique. C'est par cela que nous sommes approchés d'un groupement de femmes au niveau de Kakota, dans le nord à Bouna, avec qui nous avons travaillé. Et nous avons travaillé avec les agents de l'ANADER, de sorte à leur montrer un peu les bonnes pratiques pour obtenir un bon rendement et puis des produits de qualité. À l'issue de cela, les produits qu'elles ont obtenus, c'est ce que nous avons pris pour aller maintenant au laboratoire pour faire le process.
Quelles légumineuses locales sont à cibler pour cette transformation et pourquoi?
Nous avons ciblé trois. Le haricot blanc, qu'on appelle le niébé, le haricot rouge et puis le voanzou. C'est des grains, ça ressemble un peu à l'arachide. Donc ce sont ces trois-là qui ont un fort potentiel en protéines que nous avons utilisé. Nous avons bien insisté, c'est les viandes végétales de type tofu. Donc c'est un process par voie humide. Okay? C'est-à-dire qu'on va d'abord tremper, on va broyer, puis on va obtenir le lait qu'on va filtrer. Et c'est ce lait-là qu'on va coaguler pour extraire les protéines. Et le coagulat, il est modélé et c'est celui qui nous donne la viande végétale.
Comment comptez-vous intégrer les pratiques agricoles durables dans ce projet?
C'est-à-dire, une fois que vous avez le produit frais, vous avez mille et une façons de le préparer suivant votre goût. Parce que c'est un aliment même qui, lui-même, n'a pas de goût. On l'assaisonne à son goût. Soit on le fait en sauce, soit on le fait en friture, soit on le fait en grillade, en braisé, etc.
Pourquoi le choix des enfants et des cantines?
Initialement, la problématique que nous avons posée, c'était un problème de malnutrition infantile. Et donc, nous sommes intéressés aux enfants, donc au niveau des cantines. Deuxième élément, puisque les cantines scolaires nous ont approchés pour dire que eux, ce qu'ils font, ils achètent la protéine texturée de soja. Et ça revient très cher. Pourquoi ne pas produire ça localement? C'était ça la problématique quand ils nous ont approchés.
Quel impact attendez-vous sur la santé nutritionnelle des enfants dans les communautés ciblées?
Au niveau de la santé nutritionnelle, que c'est un produit, quand nous avons dosé, il y a un fort énorme protéine. augmenté de 19 à 20%. Donc déjà, si on peut avoir à disponibilité un produit qui est moins cher, parce que c'est surtout ça ce problème, il faut avoir la possibilité de l'acquérir, de l'acheter. Et c'est pas évident pour la viande dont le kilo est maintenant à 3 000, plus de 3 500, 4 000 voire le kilo. Donc là, si on peut l'avoir, parce que je vous ai dit que le rendement est autour de 65%, hein, c'est les trois légumineuses, il y a une qui va jusqu'à 70%. Donc c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que si vous avez 1 kilo, vous avez 70 grammes. Donc pratiquement pas de rébus. Donc c'est vraiment intéressant. Nous sommes en train de bien roder ça avec les cantines scolaires, puisque ce sont nos partenaires directs avec qui nous travaillons. Et ensuite, on va voir comment faire. J'ai mis une étudiante en thèse sur le travail pour voir l'aspect des viandes séchées. Parce que là, ici, c'est humide. Et donc, nous voulons explorer l'autre aspect pour pouvoir bien maîtriser l'ensemble.
Avec quel acteur, parlons des agriculteurs, ONG, institutions, collaborez-vous dans ce projet?
Bon, c'est des groupements de femmes agricoles. Deux groupements qui sont, c'est à Kakuta, dans le département de Doropo, à Buna. Et ce sont des groupements que les cantines scolaires ont mis à notre disposition, puisque ce sont des femmes déjà qui sont organisées, qui produisent les légumineuses et qui revendent à la cantine scolaire. Donc, c'était de voir comment optimiser leur production, les aider à augmenter leur rendement, leur qualité, de sorte à ce qu'une fois que c'est produit et que c'est mis à la disposition des cantines scolaires, on puisse maintenant les transformer pour l'alimentation des enfants.
On va parler des perspectives, docteur. Comment envisagez-vous l'évolution de ce projet à court terme?
À court terme, là actuellement, nous sommes en train de faire un brevet pour pouvoir sécuriser vraiment la propriété et puis maintenant commercialiser ça déjà. Je suis au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny, hein, je suis ouverte à toute proposition.
Quelles recommandations feriez-vous aux décideurs politiques concernant la promotion des légumineuses dans l'alimentation locale?
C'est un produit qui est nouveau, qui n'est pas sur le marché. Donc, il faudrait qu'on fasse vraiment la sensibilisation, la présentation du produit, montrer les potentialités pour que les uns et les autres puissent s'en approprier. Montrer qu'il y a un existant pour que chacun s'en accapare. Puisque c'est quelque chose qu'on peut modeler à sa guise. On cherche des contributeurs pour nous aider maintenant à l'aspect commercial du produit.
Merci infiniment, docteur Doué-Ginette Gladys.
Merci.
Voilà, Paul Bénédicte Bolot recevait Doué Ginette Gladys, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody, dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui met un terme à cette édition. Le rappel des deux titres. Acteur majeur du processus électoral, les défenseurs des droits de l'homme ont été appelés à être impartiaux hier jeudi à Abidjan lors de la rencontre d'échange initiée par le Conseil national des droits de l'homme. Dans la qualité internationale, en République démocratique du Congo, deux explosions hier, jeudi à Bukavu, lors d'un meeting de la FCM23. Bilan provisoire, au moins 11 personnes ont été tuées, 71 blessées. Fin de ce vendredi 7h, retour à l'actualité 8h.